Encore, j'espère qu'effectivement on est encore concentré. D'abord, je voudrais vraiment dire merci pour cette invitation, pour la possibilité d'être ici parmi vous. Je voudrais remercier l'équipe qui est venue en Bulgarie, chacun, et puis tous ceux qui ont été derrière pour préparer, pour prier, pour soutenir, ficeler les bagages. C'est ça, en fait, tous ceux qui ont été derrière, qui ont donné, qui ont participé. Je pense que c'était vraiment un témoignage béni, l'équipe était unie. Il n'y a eu aucun réel incident, à part les incidents mécaniques. Vraiment, il y a les freins qui ont lâché, mais dans l'unité de l'équipe, je crois que vraiment dans l'amour fraternel, moi j'ai ressenti aucun malaise. Camélia non plus, Boris et Nina non plus, notre équipe qui est là-bas en place en Bulgarie. Vraiment, tout le monde était... Tout le monde était encouragé, il y a beaucoup de travail qui a été accompli et vraiment, on remercie le Seigneur et je pense que c'est un encouragement pour tous ceux qui donnent, tous ceux qui participent. Alors le sujet de la mission à court terme m'a fait cogiter un petit peu, c'est pas un sujet très facile parce que le concept mission à court terme est pas en fait directement biblique, il n'y a pas d'expression dans la Bible qui sont apparentés. Bon, une mission ou une tâche que Dieu donne à court terme, pourtant ça existe, mais c'est au milieu, on pourrait dire, du cadre de l'appel de Dieu. Or, l'appel de Dieu, les dons et l'appel de Dieu ne sont pas à court terme. Je vais laisser à tout le monde peut-être le temps de s'installer. Il y a encore un petit peu une certaine...
Oui, c'est vrai. Est-ce que vous entendez bien dans
une certaine dynamique. Voilà, est-ce que tout le monde est bien installé? Les dons et l'appel de Dieu ne sont pas à court terme. L'apôtre Paul dit, il parle des bénédictions accordées à Israël, mais on peut élargir ça à tout ce que Dieu donne. Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Donc, que ce soit l'appel de chaque chrétien à servir, ce qu'on appelle le sacerdoce universel, chaque chrétien est appelé à servir. Là où il est. Et si un chrétien qui dit « je ne suis pas appelé à servir », ça veut dire qu'il n'est pas chrétien, tout simplement. Déjà. Donc chaque chrétien est appelé à servir et puis le Seigneur donne des ministères spécifiques dans l'Église car Dieu a placé dans l'Église, dit Paul, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, des docteurs, des pasteurs, des évangélistes et ainsi de suite. Donc des ministères spécifiques qui sont accordés par Dieu et qui sont reconnus par le corps de Christ, reconnus par l'Église, c'est pas à court terme, c'est pour la vie. Quand le Seigneur appelle, il appelle pour toujours, il appelle pour la vie. Mais dans le cadre de cet appel qui est un appel pour la vie, il y a des missions que le Seigneur confie, des missions qui sont des missions à court terme. Et j'ai essayé d'en recenser quelques-unes. Et le thème, c'est une mission sensible, la mission à court terme, une mission sensible, une intervention, on pourrait définir ça comme une intervention limitée dans le temps qui correspond à un besoin précis au sein du corps de Christ. Alors, d'abord, dans l'Ancien Testament, je ne respecte pas tout à fait l'ordre chronologique, mais on pourrait penser à une mission à court terme, Néhémie et la construction, la reconstruction des murailles de Jérusalem, qui a pris une cinquantaine de jours. On pourrait parler, j'aimerais évoquer ça demain, de l'intervention d'Esther auprès du roi de Perse en faveur des Juifs. Ça a duré, en fait, quelques heures, à peu près 48 heures, et pourtant une mission extrêmement difficile et dangereuse. La prédication de Jonas à Ninive, dans 40 jours, Ninive sera détruite. Jonas a rechigné, il a refusé d'aller, parce que Ninive, c'était les ennemis. Il a été un petit peu forcé, quoi. Il a été mouillé, et un petit peu forcé, il a dû y aller, l'homme de Dieu, et là ça nous fait rentrer dans le cadre de beaucoup d'actions prophétiques, cet homme de Dieu qui a été envoyé auprès du roi Jéroboam et de son autel. Et il a prêché la parole du Seigneur à Jéroboam et il a prédit que l'autel allait se fendre et que la cendre qui est sur l'autel, un autel impie, un autel païen, allait être répandue. Et Jéroboam a tendu sa main et sa main s'est retrouvée desséchée et il a supplié l'homme de Dieu de ramener sa main. Une mission extrêmement difficile, dangereuse. Le Seigneur avait imposé à cet homme de Dieu des conditions draconiennes que l'homme de Dieu n'a pas respecté, ce qui a été fatal ensuite. Je vous reporte à ces passages de la parole de Dieu. Un certain nombre d'actes prophétiques qu'on pourrait définir comme des missions à court terme. L'intervention du prophète Élie face aux 450 prophètes de Baal, c'est une mission à court terme, assez mouvementée. Puis il a intercédé pour la pluie. Lorsque le prophète Ézéchiel est resté couché 380 jours devant une maquette de la ville de Jérusalem en faisant cuire sa nourriture sur de la bouse de vache, c'était une mission à court terme qui était probablement assez difficile. Et puis on peut parler des interventions du prophète Ésaïe, de la vie du roi Ézéchias à l'occasion de sa maladie, à l'occasion de l'invasion des Assyriens. On peut parler de d'autres missions à court terme. Lorsque le roi Ézéchias a préparé la célébration de la Pâque, c'est en 2 Chroniques chapitre 30, il a envoyé des émissaires dans tout Juda et Israël pour que le cœur de tous ceux qui veulent être touchés soit ramené au Dieu de leur père. C'était évidemment un temps d'apostasie. Une mission très émouvante, très 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 touchante. Il y a deux autres missions qui sont comparables en 2 Chroniques. Un petit peu avant, en 2 Chroniques 17, sous Josaphat, des Lévites avaient été envoyés pour enseigner le peuple de Juda, mais aussi ceux qui restaient en Israël. Israël avait, semble-t-il, déjà été déporté. Et puis en 2 Chroniques 34, il est rapporté que sous Josias, il y a eu une mission de destruction des idoles et de purification du temple qui a été donc perpétrée dans tout le territoire d'Israël. D'autres missions dans l'Ancien Testament qui sont assez originales, lorsque Moïse et Aaron se sont tenus devant Pharaon avec cet ordre de l'Éternel, « Laisse partir mon peuple ». Une mission qui a duré quelques semaines et qui a été extrêmement mouvementée, vous connaissez l'histoire. La mission du serviteur d'Abraham envoyé pour chercher une épouse pour son fils Isaac, c'était une mission très très délicate qui a été accomplie de façon remarquable. On peut parler de la mission de consolation des amis de Job, une mission qui a été peut-être pas très très réussie, semble-t-il. Ce furent de piètres consolateurs, mais voilà, c'est une mission sensible. Ils sont venus pour consoler leurs amis et ils ont, hélas, ils ont échoué. Alors voilà, ça c'est juste une sélection dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on pourrait mentionner la mission de Jean-Baptiste. D'après le spécialiste juif Alfred Edersheim, c'est un juif de Vienne qui s'est converti au XIXe siècle et qui a écrit un livre remarquable, Le ministère et la vie de Christ le Messie. Hélas, je ne crois pas que c'est traduit en français, mais bon, on lit tous à peu près l'anglais, on se débrouille. Donc je vous encourage, un livre remarquable. Il pense que la mission de Jean-Baptiste aurait duré en tout seulement 2 mois. D'après ce qu'il recoupe de ce qu'il sait de l'histoire du Nouveau Testament, et c'est possible que la mission de Jean-Baptiste n'a pas été très longue. De toute façon, le roi Hérode ne lui a pas laissé très très longtemps, hélas. C'était une mission à court terme, une mission extraordinaire de préparation à la venue du Messie. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Vraiment un ministère merveilleux. Le ministère de Jésus en Samarie, lorsqu'il s'est arrêté auprès du puits, là était la femme samaritaine. Il est resté ensuite 2 jours à cet endroit et toute cette ville s'est convertie. C'est extraordinaire. Notre frère Alain a mentionné hier l'envoi. Il y a l'envoi des 12 disciples et l'envoi des 70 disciples. Donc c'est vraiment une mission à court terme. Les tournées de l'évangéliste Philippe. Dans les villes de Samarie, dans les villes de la côte, donc dans les Actes des Apôtres, les ministères d'encouragement de Barnabas, où on voit que plusieurs fois il est intervenu en faveur de Saul de Tarse, il est allé le chercher en Cilicie pour l'amener à Antioche. On voit un homme qui c'était quelqu'un qui encourageait et qui créait des liens, une mission limitée spécifique. On peut penser à la mission d'Ananias, auquel le Seigneur se révèle pour qu'il aille auprès de Saul de Tarse. Et Ananias ne veut pas aller, mais Seigneur, il a même reçu des lettres des souverains sacrificateurs pour nous détruire. Et pourtant, il est allé, une mission seulement de quelques heures, mais on peut imaginer ce que ça représentait. La collecte pour les saints à Jérusalem. C'était une mission pratique par rapport à une situation donc de famine. Je vais revenir sur cette histoire de collecte parce que c'est un texte qu'on va examiner un petit peu plus. Les différentes missions d'Apollos à Éphèse et à Corinthe, la mission de Timothée à Éphèse qui était notamment de nommer des anciens et de lutter contre les controverses de toutes sortes et de toute nature qui menaçaient l'Église. La mission de Tite en Crète, qui était également une mission, il a été laissé en Crète pour nommer des anciens dans chaque ville. Les missions de Paul en différentes villes, certaines missions ont été très courtes, à Philippe quelques semaines, à Thessalonique peut-être seulement 3 à 4 semaines, par exemple, il est resté donc 2 ans à Éphèse et à Corinthe, à Athènes seulement peut-être quelques heures à quelques jours après cette unique, merveilleuse, mais unique prédication où il a été presque entièrement rejeté. Donc, on voit ces missions qui sont confiées, et cette mission est sensible. Et qu'est-ce qui est la difficulté ? La difficulté, c'est d'avoir à accomplir une tâche précise, une tâche difficile, peut-être une tâche pressante, urgente, concrète, en ayant peu de temps pour s'adapter, en faisant face à l'opposition et en devant prendre des décisions qui sont comme les décisions qui nous sont présentées dans la parole de Dieu, des décisions d'obéissance, c'est-à-dire connaître la volonté du Seigneur, être fidèle à ce que le Seigneur place devant son serviteur et qu'il désire qu'il soit accompli. Et je voudrais prendre un exemple dans la vie de l'apôtre Paul. C'est un exemple qui n'est pas très connu et c'est une situation qui justement elle est un petit peu difficile à comprendre parce que c'est une situation confuse et compliquée. On aimerait bien que tout soit simple, on aimerait bien interpréter la Bible très simplement, et la parole de Dieu elle est claire et simple, mais les situations humaines sont compliquées, comme dit Salomon, les voies de l'Éternel sont simples, mais l'homme cherche beaucoup de détours. Et pourquoi est-ce qu'une situation humaine elle est compliquée? Elle est compliquée quand il y a des compromis, elle est compliquée quand il y a de l'hypocrisie, elle est compliquée quand on s'éloigne de la vérité. Et là, ce que je vais vous lire dans le livre des Actes, au chapitre 21, on va se positionner, c'est à la fin du ministère de l'apôtre Paul, juste avant que l'apôtre Paul soit arrêté, c'est une scène très très violente, il est arrêté à Jérusalem, emprisonné, et il passe par une succession d'emprisonnements, d'abord à Jérusalem, il y a un complot des Juifs qui veulent ôter sa vie, puis à Césarée plusieurs années, avec plusieurs défenses devant les grands de ce monde, puis à Rome, où de façon ultime il donne sa vie, même si certains supposent que pendant le temps que Paul a passé en prison à Rome, il a été libéré un certain temps, bon, je ne sais pas, peut-être il y en a qui sont pour oui, pour non, ça on ne sait pas. Mais en tout cas, on est à peu près 25 à 30 ans après la Pentecôte, relativement à la fin du ministère de l'apôtre Paul. C'est aussi un temps extrêmement difficile. Alors, je vais lire le texte et puis on va un petit peu parler du contexte. On va un petit peu essayer de voir ce qui se passe. Il est écrit au verset 17 d'acte 21, « Lorsque nous arrivâmes à Jérusalem. » Alors, pourquoi est-ce que Paul arrive à Jérusalem? Qu'est-ce qui se passe? Justement, il amène la fameuse collecte. Il amène une grosse somme d'argent, il amène la fameuse collecte pour les saints à Jérusalem qui sont vraiment dans le dénuement. Donc, il a rassemblé cet argent et il en parle longuement quand vous lisez, notamment dans la deuxième épître aux Corinthiens, les chapitres 8, 9, vraiment en détail, Paul a énormément travaillé pour l'assistance qui est due aux saints qui souffrent. Donc c'est vraiment une mission d'aide, une mission de dévouement. Et il arrive à Jérusalem et les choses se passent pas très bien. Il est pas très bien accueilli. Et pourtant, il est dit que lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Avec joie, ouais, mais... T'as déjà été reçu avec joie, mais... La joie, mais c'est comme si c'était doux dans la bouche, mais ensuite c'est amer dans les entrailles. T'es accueilli, t'es peut-être accueilli dans une église, t'es accueilli dans une famille, t'es accueilli, on t'offre l'hospitalité, t'es accueilli dans une communauté, il y a une relation d'amitié, une relation de collaboration, et puis c'est doux, tout est cool, là, t'as des douleurs d'estomac épouvantables, quoi. Paul a été reçu avec joie, mais, qu'est-ce qui se passe? Bon, déjà, Paul a été prévenu. Et Paul, c'est comme si, vraiment, c'est frappant, il suit les traces de Jésus-Christ, il monte à Jérusalem, et de la même façon que le Seigneur Jésus qui montait à Jérusalem plusieurs fois, il dit, voilà, le Fils de l'homme va être livré entre les mains des impies, des pécheurs. Paul est prévenu par le Saint-Esprit plusieurs fois que des liens et des tribulations l'attendent. Donc bon, il y a cette chose qui pèse sur l'apôtre Paul. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, donc avec la collecte, les frères nous reçurent avec joie. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques et tous les anciens s'y réunirent. Après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu. Bon, super, c'est merveilleux. Puis ils lui dirent, « Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru et tous sont zélés pour la loi. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Que faire donc? Sans aucun doute, la multitude se rassemblera car on saura que tu es venu. C'est pourquoi fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi. » Purifie-toi avec eux et pourvois à leurs dépenses afin qu'ils se rasent la tête et ainsi tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux, mais que toi aussi tu te conduis en observateur de la loi. À l'égard des païens qui ont cru, nous avons décidé et nous leur avons écrit qu'ils doivent s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de la débauche. Alors Paul prit ses hommes, se purifia et entra le lendemain dans le temple avec eux pour annoncer à quel jour la purification serait accomplie et l'offrande présentée pour chacun d'eux. Alors avant de voir qu'est-ce qui va pas, il faut encore parler un petit peu de la situation générale. On est dans les années, au début des années 60. À Jérusalem. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'Église à Jérusalem est dans une situation qui est en train de devenir intenable. De plus en plus difficilement tenable. L'Église est de plus en plus persécutée par les Juifs. L'Église a grandi. L'Église, au départ, elle était uniquement juive. Depuis, il y a beaucoup de païens, donc d'éléments des autres nations qui se sont convertis. L'Église a grandi. L'Église a connu vraiment des heures de victoire et de gloire merveilleuses malgré la persécution. Mais l'opposition de la part des Juifs et des chefs religieux juifs devient de plus en plus forte. Elle devient presque intenable. Et petit à petit, c'est la peur et la menace de la persécution pèsent sur l'Église. Et bon, c'est quelque chose de terrible. On ne pourra jamais suffisamment remercier le Seigneur pour la liberté qu'on a. Je ne pense pas qu'on aura toujours la liberté qu'on a aujourd'hui. Je suis content qu'on l'a aujourd'hui, je suis content qu'on l'ait eu hier. Je ne sais pas si on l'aura le mois prochain, je ne sais pas si on l'aura l'année prochaine. Quand au lieu de la liberté, c'est la peur et la menace, c'est terrible. Donc il y a une menace de persécution de plus en plus forte sur l'Église de Jérusalem. L'autre chose qui est évidente, c'est de la part de Dieu, il y a une sentence de jugement sur le peuple juif qui est sur le point de s'accomplir. Une petite dizaine d'années après ça, donc une petite dizaine d'années, excusez-moi, c'est très très peu de temps, Jérusalem a été entièrement détruite, rasée par les Romains. Ça a été terrible, ça a été épouvantable. Il y a des récits qui racontent, il y a des milliers de juifs qui ont été crucifiés. Les chrétiens, semble-t-il, ont réussi à fuir la ville à temps et à échapper. Hein, ils ont suivi les prophéties du Seigneur, mais ça a été terrible. Donc vous aviez une nation qui était sous la coupe du jugement de Dieu, d'un jugement imminent, et c'était un jugement absolu. Et donc c'est des nuages noirs qui s'accumulent. Hein. Bon, moi je voudrais pas. Il n'y a vraiment rien de prophétique dans ce que je dis. Mais enfin, quand on voit un petit peu l'état de la civilisation occidentale, bon, on vit dans la même ambiance. Hein. On vit dans la même ambiance. Cette civilisation purement matérialiste, une civilisation d'une impudicité éhontée, elle est sous la coupe du jugement de Dieu. Ça prendra peut-être un petit peu plus de temps, ça prendra peut-être un petit peu moins de temps que ça, mais vraiment, c'est la même ambiance. Donc une menace de persécution et puis la menace du jugement de Dieu sur tout ce qui se voit. Et dans cette situation, on voit Paul qui arrive dans l'église de Jérusalem. L'église de Jérusalem, c'était l'église de la Pentecôte, c'était l'église d'origine. C'est là que l'Esprit a été répandu, c'est là qu'étaient et qu'avaient été les apôtres. Tous n'étaient plus en vie, mais la plupart étaient encore en vie. C'est de là que tout était parti, c'est là que le Seigneur avait été crucifié, qu'il avait été ressuscité. Donc Paul a toujours été fidèle à Jérusalem. Lorsqu'il y a eu des difficultés, il réunit et il rassemble les frères à Jérusalem pour prendre les décisions. À chaque fois que Paul voyageait, il revenait à Jérusalem. Donc il y a cette fidélité, et puis Paul, il avait ça dans le cœur, cette promesse que Dieu lui avait donnée, qu'un jour tout Israël sera sauvé, et il attendait la conversion du peuple juif, du peuple d'Israël. Il revenait toujours à Jérusalem. Bon, ensuite, c'est vrai, il y avait Antioche, il y avait Éphèse, petit à petit, il y a des centres qui se sont... Éphèse, plus tard Corinthe, plus tard Rome, mais voilà, Jérusalem, c'était Jérusalem. C'est là que tout avait commencé, et c'est normal. Et il vient, il est reçu avec joie, il raconte, il donne son témoignage, hein, c'est comme une conférence missionnaire, hein, comme ce qui se passe ce soir, ils ont glorifié Dieu, mais tout à coup, il y a quelque chose qui est bizarre. Ils disent, tu vois frère, combien de milliers de juifs ont cru, et tous sont zélés pour la loi. Et je souligne le mot « la loi » parce que dans ce qui suit, il n'est question que de la loi de Moïse. Il n'est question que de ça. Et cette expression, elle est en contraste avec ce qu'on voit au début des Actes, où il est dit que les apôtres rendaient avec puissance témoignage du Seigneur Jésus. Alors que là, il n'est pas question du Seigneur Jésus, il est question de la loi. C'est plus question de celui qui a accompli la loi, celui qui est plus que le temple, celui qui est plus que la loi, celui qui est la véritable offrande, il est question de la loi. Et c'est ce qui se passe quand dans l'église, tout à coup, c'est la loi qui est plus importante, c'est les règlements qui sont plus importants, c'est les structures administratives qui sont les plus importants, c'est les rouages qui sont plus importants, c'est la loi. Bon, Paul était juif. Il était, de par sa naissance, soumis à la loi. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir la loi. Pour l'instant, vous rappeler que Paul, il était celui auprès duquel le Seigneur avait révélé vraiment de façon très très claire la justification par la foi. Bien sûr, les autres apôtres en parlent, mais Paul avait reçu des révélations du Seigneur et il avait écrit, ils avaient lu l'épître aux Romains, l'épître aux Galates. Et le combat de l'apôtre Paul, c'est que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, c'est-à-dire que la loi n'est pas un moyen de salut. Et ensuite, c'est ce que Paul met en valeur de façon très très claire, et aussi l'auteur de l'épître aux Hébreux, c'était peut-être Paul, on n'est pas tout à fait sûr, mais ça c'est pas grave, ça a aucune importance, c'est que la loi elle est accomplie en Christ. Nous avons ce souverain sacrificateur qui s'est offert lui-même comme offrande, donc c'est plus l'offrande des taureaux et des boucs, il y a cette offrande parfaite accomplie en Jésus-Christ. Mais là, Paul arrive, et qu'est-ce qui se passe? On lui dit, il y a plein de juifs, il y a des milliers de juifs qui se sont convertis. Mais tous sont zélés pour la loi. Et alors on se dit, mais ils ne sont pas zélés pour Christ, ils sont zélés pour la loi. Mais bon, comme ils étaient juifs, Il continuait à pratiquer la loi, il était toléré à ce moment dans l'église que tu es juif, que tu te convertis et que tu continues à pratiquer la loi. Mais le problème, c'est qu'ils étaient zélés pour la loi. Et ça fait tout de suite penser à ce verset de l'apôtre Paul en Romains, où en parlant de juifs qui ne s'étaient pas convertis, ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Et tout à coup, on dit à Paul, il y a des milliers de juifs qui se convertissent, mais au lieu qu'on lui dise, ils sont tous zélés pour Christ, on lui dit, ils sont tous zélés pour la loi. Et effectivement, on se pose la question, est-ce qu'ils sont vraiment convertis? Ou est-ce que, au lieu que ce soit des personnes qui se convertissent et grandent dans l'Église, c'est l'Église qui, petit à petit, est en train de faire un compromis et de retourner dans le judaïsme, de revenir en arrière? Et c'est fort possible, parce que c'était vraiment le problème qui est derrière la rédaction de l'Épître aux Hébreux. C'était le problème dans les églises de Galatie, même si en Galatie, beaucoup n'étaient pas juifs, mais il y avait aussi beaucoup de juifs. Et c'était l'idée, mais il faut se faire circoncire et il faut accomplir tous les rites de la loi de Moïse. Parce que les rites, les traditions, c'est quelque chose qui réconforte l'homme. C'est pas ce regard de foi vers le Seigneur où on est là dans toute notre faiblesse et où on crie au Seigneur pour recevoir de lui la grâce. C'est voilà, Seigneur, regarde, je suis quand même quelqu'un de bien parce que j'accomplis les rites et j'accomplis les rituels. Mais la loi ne sauve pas. La loi ne sauve pas, les œuvres de la loi ne peuvent pas nous justifier. Et là, ils sont tous zélés pour la loi. Et qu'est-ce que c'est que ces chrétiens, nouveau-nés, qui viennent de se tourner vers Jésus-Christ, qui a accompli la loi, qui est, lui, l'offrande parfaite et la foi. Et Paul, il était juste allé jusqu'à dire aux Galates que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. C'est-à-dire que le salut est uniquement par la foi. Et si vous vous placez sous la loi, vous êtes tenu d'accomplir tous les commandements de la loi. Et la foi ne procède pas de la loi. Et la position de Paul, le peu que je connais Paul, il était clair. Et il n'y avait pas moyen de contourner ce qu'il disait. Alors il arrive, il y a des milliers de juifs qui se sont convertis, mais ils sont tous zélés pour la loi. Et puis, ensuite, quelque chose de bizarre, ils ont appris que, alors là, c'est des histoires un peu de bruit, que tu enseignes à tous les juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Alors là, il est question de nouveau de Moïse, hein, de la circoncision et des coutumes. Il est question que de la loi. Et alors, les gens disent que tu dis de ne pas se conformer à Moïse et de ne pas se faire circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Et alors, est-ce que c'était vrai ce qu'il disait? Est-ce que c'était faux? En fait, dans un sens, Paul permettait aux juifs qui étaient juifs et qui se faisaient circoncire de rester fidèles à la tradition juive. Mais c'était également vrai que Paul disait la circoncision ne sert à rien. Et ça, je peux vous le démontrer si on ouvre l'Épître aux Galates. C'est pas la circoncision, c'est pas l'incirconcision. Et il dit dans l'Épître aux Romains, le juif, c'est pas celui qui est circoncis dans la chair. La véritable circoncision, c'est celle du cœur. Donc, Paul, oui, c'est vrai, il disait que t'es pas obligé de te circoncire, que t'es pas obligé de tenir à tout cet aspect rituel de Moïse, même si la loi de Moïse dans son sens spirituel elle reste, les 10 commandements ils restent. Je prêche sur les 10 commandements en ce moment en Bulgarie. Donc il y a ce code de sainteté, mais il n'y a plus tous ces rituels et tous ces sacrifices. Tout ça, ça a été accompli dans le Seigneur Jésus. Tout ça, c'est plus nécessaire. Hein? Et se conformer même aux coutumes. Alors le mot les coutumes, c'est même pas seulement la loi de Moïse, c'est tout le fatras des traditions, des juifs et des rabbins et tout ça. Et donc, les gens, ils pensent ça, donc essayent de leur démontrer le contraire. Il y a un certain nombre de personnes qui ont fait un vœu, ils vont se faire raser la tête, et toi, tu vas rentrer dans le temple, payer pour leurs dépenses, et prendre à ta charge leur offrande pour la purification de chacun d'eux. Et qu'est-ce que c'est que cette offrande pour la purification? Dans le Nouveau Testament, en Jésus-Christ, il n'y a plus d'offrande pour la purification, ça c'est fini. Il n'y a plus d'offrande pour la purification. Et Paul, en fait, il s'est retrouvé, il était piégé. Il s'est retrouvé pris au piège dans une église qui, semble-t-il, si j'interprète correctement, parce que c'est une situation confuse, Donc, dans les situations confuses, hein, des fois, on est au milieu d'une situation confuse et il y a quelque chose qui ne va pas et on n'arrive pas trop à comprendre ce qui se passe. Mais quand même, si je place ces mots-là, sachant que c'était la fin du ministère de Paul et tout ce qui lui avait été révélé dans une situation où c'était... C'était de la semi-apostasie. Il revenait en arrière, il revenait à la loi. Et bon, le motif, c'était, on ne va pas lui juger parce que ils avaient peur. Ils avaient peur, ils étaient talonnés par leurs ennemis. Et ils croyaient dans le Seigneur Jésus-Christ, mais ils continuaient à accomplir les rites de purification. Or, il n'y a pas d'autre purification que le sang de Christ. Et là, qu'est-ce que Paul a fait? Il a fait ce qu'on lui demandait de faire. Il a pris les hommes en question. Il est rentré dans le temple. Il a payé la dépense pour chacun d'eux. C'est un petit peu un comble. Déjà, il vient en portant la collecte en faveur des saints et c'est lui qui doit s'occuper de la dépense. Il accomplit tout ce qu'il faut. Bon, ça a servi à quoi? À rien. Parce que l'émeute s'est quand même soulevée dans Jérusalem. Il a quand même été arrêté dans le temple, etc. Mais malgré cette situation où il avait... tout à fait de très très bonnes raisons de dire non, je ne ferai pas ça en Jésus-Christ. Il n'y a plus de purification qui est possible au travers d'offrandes ou de sacrifices, quels qu'ils soient. La loi de Moïse, dans son aspect rituel, c'est-à-dire la loi de Moïse dans ce qui est en elle, qui annonce Christ, n'est plus nécessaire parce que Christ est venu, parce que Christ est celui qui a accompli la loi et parce que les œuvres de la loi ne justifient pas. Il pouvait dire non, c'est contraire à ce que le Seigneur nous a accordé par sa grâce et révélé. Il pouvait dire, je n'irai pas. Mais là, Paul, il s'est tu, il n'a rien dit, il a fait ce qu'on lui demandait. Et c'est très difficile parce que beaucoup d'entre nous, on dirait, il a fait un compromis. Beaucoup d'entre nous, on dirait, il a manifesté de la faiblesse. Beaucoup d'entre nous diraient, il a été mou, il n'a pas été clair, il n'a pas été, je ne sais pas, peut-être il n'a pas été fondamentaliste, il n'a pas été intransigeant par rapport à ses convictions, il a cédé, il a eu peur. C'est très facile, on pourrait très facilement le dire. Et pourtant, Paul, il était guidé par le Seigneur. Il dit, avec les Juifs, je me suis fait juif afin d'en gagner quelques-uns. Avec ceux qui sont sans loi, j'étais comme sans loi, bien que je suis sous la loi de Christ, afin d'en gagner quelques-uns. Je me suis fait tout à tous, hein, c'est dans la première épître aux Corinthiens, afin d'en gagner de toute façon quelques-uns. Et pour Paul, et là on voit Paul qui était dans une situation confuse, dans une situation pour le moins douteuse, dans une situation de compromis, il pouvait entrer en conflit avec les anciens de Jérusalem. Il a refusé de le faire. Et pourtant, Paul, il dit, est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Il dit, quand il fallait prendre position, si je cherchais à plaire aux hommes, il dit tout simplement, je ne serais pas serviteur de Christ. Donc, quand il y avait Pierre à Antioche, c'était encore une histoire de jouer les juifs, alors que de toute façon, on n'arrive pas à accomplir la loi devant les païens. Il a dit à Pierre, t'es répréhensible. T'es hypocrite, t'es juif, t'arrives pas à accomplir la loi et tu voudrais, quand il y a des juifs qui sont plus stricts que toi, pour leur plaire, t'essayes de forcer les païens à accomplir la loi. Hein. Ça veut dire, on crée des règlements, on n'arrive pas à se tenir à nos propres règlements, mais on l'exige des autres, hein, surtout des nouveaux convertis, parce qu'on voudrait donner l'impression qu'on est des super bons chrétiens, quoi. Et ça, c'est de l'hypocrisie. Paul n'avait pas peur, il savait tenir tête. Mais dans ce cas-là, il a obéi. Et pourquoi il a obéi? Je ne peux pas vous donner vraiment de réponse. Je ne peux pas vous dire, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé dans le cœur de l'apôtre Paul. Je ne sais pas quelle discussion il a eue avec ses plus proches collaborateurs. Mais il était guidé par le Seigneur. Il était guidé par le Saint-Esprit. On lui a demandé de faire quelque chose qui était au moins, je suis convaincu, au moins partiellement contraire à ses convictions. Mais afin de vivre en paix, avec le désir de vivre en paix avec ses frères, et Paul qui dit « Autant que ça dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes », il a manifesté cette paix, il a manifesté cet amour. Il a obéi. Il a pris ses hommes et il est allé accomplir ses rites dans le temple. Et j'imagine que ça lui a donné la nausée, parce qu'il était pharisien autrefois et persécuteur de l'Église. Et ses rites, toute son enfance, il les avait accomplis dans le temple, et toute son adolescence, et toute sa vie de jeune adulte. Et en faisant ses rites, il tuait des chrétiens. Il persécutait l'Église du Seigneur. Et puis le Seigneur Jésus-Christ s'est révélé et à lui, et depuis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais il est allé, il est retourné, il a fait les rites. Parce qu'il était guidé par le Seigneur de ne pas blesser les anciens Jérusalem et de ne pas blesser l'Église de Jérusalem. Bien qu'ils étaient dans une situation qui certainement constituait un grave danger. Et là, une mission sensible, c'est vraiment à cette situation que j'ai pensé en pensant à une mission sensible, c'est-à-dire une mission où on a de très bonnes raisons de faire quelque chose et on a de très bonnes raisons de faire l'exact contraire. Sur un terrain missionnaire, on a de très bonnes raisons de s'abstenir complètement et on a très bonnes raisons de ne pas s'abstenir. On a de très bonnes raisons d'interdire et on a de très bonnes raisons de permettre. Et ça, c'est une mission sensible. À mon avis, il n'y a pas de mission plus sensible, par exemple, que d'éduquer nos propres enfants. Qu'est-ce qu'il faut permettre? Qu'est-ce qu'il faut interdire? Qu'est-ce qu'il faut tolérer? Surtout quand ils deviennent adolescents, ils veulent leur liberté. Est-ce qu'il faut leur permettre d'écouter du rap? C'est horrible, c'est plein de violence. Les gamins, ils écoutent du rap, quoi. Ils écoutent Eminem, voilà, Linkin Park, ils écoutent ça. Ils sont malades de ça, du matin au soir, quoi. Il faut leur interdire. Non, non, non. Est-ce qu'il faut leur interdire? Est-ce qu'il faut permettre? Si j'interdis, j'ai d'excellentes raisons d'interdire. 100%. Je suis un père chrétien formidable, mais si je leur permets, il y a des raisons pour que je leur permette. Ça veut pas dire que j'approuve. Mais si je leur laisse une certaine liberté, vous voulez écouter ça, vous voulez une musique pleine de violence, elle vous détruit, elle est pleine de violence, elle est pleine de haine. Il y a pas la crainte de Dieu, il y a pas le respect de Dieu, ça vous fait du mal. Mais si vous voulez l'écouter, vous l'écoutez, vous faites du mal. Mais je voudrais bien que vous compreniez que vous faites du mal. On peut interdire avec des règlements d'une rigidité absolue, hein, jésuite. On peut aussi permettre, on peut tolérer. On peut rejeter des formes, des rituels, des pratiques, on peut les permettre. On peut prendre la table du Seigneur d'une façon, on peut la prendre d'une autre. On peut la prendre chaque dimanche, on peut la prendre tous les jours, on peut la prendre une fois par mois, une fois tous les deux mois. On peut faire comme ça, on peut faire d'une façon différente. Et y a mille façons différentes de faire, mais y a de telles différences dans même nos convictions, même par rapport à des choses que Dieu nous révèle. L'homme est libre de choisir, et pourtant on a été choisi de toute éternité. Tu peux le réconcilier ? Non, c'est pas possible de le réconcilier. Tu dois choisir. C'est quand on vient là, dans la maison du Seigneur et qu'on entend l'évangile, le Seigneur il nous dit, je place devant toi la vie et la mort, ça dépend de toi. Choisis la vie afin que tu vives. Ça dépend de toi. Le Seigneur ne nous dit pas, ça dépend de moi. Il nous dit, ça dépend de toi. C'est toi qui dois faire le choix et c'est toi qui porteras la peine de ton choix. C'est toi qui portes la responsabilité de tes choix. Après qu'on a choisi, le Seigneur nous dit, je te connaissais, je t'avais choisi de toute éternité. Tu ne peux pas le réconcilier. Les théologiens n'ont pas pu réconcilier ces deux vérités 2000 ans. Donc, c'est surtout pas moi qui vais essayer de le faire ce soir. Il nous est dit... Et c'est clair dans la parole que le salut, c'est quelque chose d'éternel. On est sauvé, on est scellé du Saint-Esprit, notre nom est écrit dans le livre de vie, on est élu de toute éternité. Et pourtant, on est sans cesse prévenu du danger de l'apostasie. Est-ce qu'on peut le réconcilier ? On ne peut pas. Mais les chrétiens se battent, ils se disputent parce qu'on a une façon d'exprimer nos convictions et puis il y en a d'autres qui ont une autre façon d'exprimer les convictions. Ça, c'est la mission sensible. Paul, il se faisait tout à tous. Et là, il y a l'amour et il y a la sagesse. Et ça montre cette chose qui est extraordinaire, que le but de Paul, c'est « je me fais tout à tous ». Il ne faisait aucun compromis, lui, par rapport à sa foi, par rapport à sa conviction. Si quelqu'un l'avait interrogé par rapport à la justification par la foi, il savait se défendre. Et il savait se défendre d'une façon tellement magistrale. Mais il se faisait tout à tous parce qu'il voulait en gagner quelques-uns. Quelques-uns du monde et peut-être aussi quelques-uns dans l'Église à un moment où l'Église elle était menacée de chanceler. Il ne faut pas idéaliser, je pense, l'Église primitive. L'Église primitive connaissait, je pense, toutes les difficultés que nos églises connaissent. Sinon, Paul ne parlerait pas de ce qui me poursuit jour et nuit, le souci de toutes les églises. Peut-être qu'il y avait aussi l'Église de Jérusalem, hein, dans toutes les églises. Il y a le souci de toutes les églises, mais il voulait en sauver quelques-uns, et pour lui, c'était le plus important. Et ça, là il y a cette sagesse de celui qui... Il ne cèdera pas, il ne fera pas de compromis. Il va jusqu'au martyr, il donne sa vie pour la cause du Seigneur Jésus-Christ. Mais cette patience envers les frères, face à la confusion, face au désordre, face à l'incompréhension que les frères génèrent, qu'on génère tous, face à cette faiblesse, l'œuvre de Dieu, elle est entachée de faiblesse. Notre vie et notre ministère dans l'œuvre de Dieu sera toujours entaché par notre faiblesse. Ce sera toujours entaché par la mienne. On porte ce trésor fabuleux, dit l'apôtre Paul, dans des vases de terre. C'est quoi l'inconvénient des vases de terre? C'est qu'il suffit de les laisser tomber une fois par terre, ils se cassent. C'est ça l'inconvénient des vases de terre. C'est surtout ça l'inconvénient. C'est que c'est pas des vases en argent, c'est pas des vases en métal. Il y avait des vases d'argent et des vases d'or. Mais l'inconvénient des vases de terre, c'est qu'il suffit que tu les laisses tomber une seule fois, ils se cassent. Ça montre notre fragilité. Hein. Si c'est pas le Seigneur qui nous tient, on tombe une seule fois par terre et c'est fini. Donc ça marquera notre ministère toujours, toute notre vie, notre service, toute notre vie. Et Paul, à ce moment-là, il passe au-dessus de ça. Paul, il sait de toute façon qu'il va être arrêté. Il sait ce qu'il attend. L'important pour lui, c'est d'aller à l'église de Jérusalem, d'apporter le témoignage que le Seigneur est en train de sauver les païens, de leur apporter l'argent dont ils ont besoin, parce que sinon, ils vont mourir de faim. Et quand il commence à pinailler, à lui rendre la vie impossible avec des rituels, il passe par-dessus, il va dans le temple, il les accomplit. Il ne pose même pas de questions. Et là, il y a quelque chose qui touche mon cœur et qui me fait beaucoup réfléchir sur plein de fois où je pensais que j'avais raison et même peut-être que j'avais même bien raison. J'avais bien raison dans mes convictions, mais j'avais tort dans mon comportement. Parce que c'est une chose d'avoir raison, mais quand on montre pas mal qu'on a raison, ben on a tort. C'est une chose d'être dans la vérité, c'est une chose de dire la vérité. Mais une vérité dite sans amour, elle s'est transformée en mensonge, elle est mutée. Hein, c'est devenu un mutant. On dit la vérité, mais on dit la vérité dans un esprit de jugement. On ne dit pas la vérité dans l'humilité, dans la compassion, dans le désir de sauver. Bon, on dit la vérité, mais c'est devenu un mensonge, parce que la vérité dite sans amour, c'est le mensonge. Paul dit, en professant la vérité avec amour, nous croîtrons à la mesure de Christ. Et bon, la mission sensible, c'est sûr, c'est un thème immense, mais c'est quelques réflexions. C'est des réflexions que je me fais à moi-même. Et je pense que la parole de Dieu touche nos cœurs. C'est une réflexion que le Seigneur puisse nous donner, d'être sensible à sa voix, de nous aimer vraiment les uns les autres et d'être ferme par rapport à nos convictions, mais que nos convictions ne soient pas un refuge pour l'orgueil ou pour la colère ou même pour une certaine forme de violence, une certaine forme de penser qu'on est plus que les autres. Parce qu'il y a vraiment ce qui nous a été accordé en Jésus-Christ qui est uniquement par grâce. Que le Seigneur vous bénisse.
Merci Joël, je vous propose de chanter le numéro 33. Après ça, si...